C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Et il faut que je vous avoue quelque chose. C'est un plaisir d'autant plus grand que je ne pensais pas que nous serions aussi nombreux ce matin. Je m'attendais avec le pont d'avoir une quinzaine de personnes. Et vraiment, c'est un encouragement de pouvoir être aussi nombreux. Aussi nombreux déjà dès la réunion de prière, aussi nombreux pour louer le Seigneur et chanter ensemble. Et puis, nombreux aussi pour écouter sa parole à présent. Ce matin, je vous propose de nous replonger dans la première épître de Paul aux Corinthiens. La première aux Corinthiens, c'est une lettre que nous lisons régulièrement sur... Ça fait maintenant plusieurs années que nous sommes dessus et que nous avons sous, comme ça, passage par passage. Et nous sommes arrivés au chapitre 4, et nous terminons aujourd'hui le chapitre 4 en commençant la lecture à partir du verset 14. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 14. Et Paul écrit à ses correspondants corinthiens ceci. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela. Mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez 10 000 surveillants dans le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Je vous y encourage donc, imitez-moi. À cet effet, je vous ai envoyé Timothée qui, dans le Seigneur, est mon enfant bien-aimé et digne de confiance. Il vous rappellera mes voies en Jésus-Christ telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. En pensant que je ne viendrai pas vous voir, quelques-uns se sont gonflés d'orgueil. Or, je viendrai vous voir bientôt, si telle est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non pas la parole, mais la puissance de ceux qui se sont gonflés d'orgueil. Car le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que voulez-vous ? Que je vienne vous voir avec un bâton, ou avec amour et dans un esprit de douceur ? Jusqu'ici notre lecture. Je vais prier. Seigneur, je veux te prier que tu nous illumines ce matin encore par ton esprit et que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas comment vous recevez ce passage ce matin. Là, comme ça, directement, et même moi en l'ayant travaillé en vue de la prédication, on a quand même l'impression qu'il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe quand on le sort comme ça de son contexte de la première épître aux Corinthiens. Il arrive en conclusion d'un long développement de 4 chapitres et avant de passer à la suite. Et on sent bien que c'est une transition qui vient conclure, qui vient parler de la fin. Quand Paul écrit « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela. » Tout de suite, on se pose la question, qu'est-ce qu'il a écrit déjà ? Quand on lit ce passage, juste ce passage, les versets 14 à 21, on a quand même l'impression, en tout cas c'est mon cas, que ça chauffe un peu entre Paul et Corinthe. Paul n'a pas un ministère de tout repos. Il tourne dans les églises, il ne passe pas partout quand il veut, il est conduit par l'esprit et il a tellement de choses à faire. Et à la lecture, j'ai l'impression que ça faisait un petit moment que Paul n'était pas passé à Corinthe. Et certains prennent la confiance. Ils se sentent pousser des ailes. Ils se sentent importants, ils se gonflent d'orgueil. Sans doute se prennent-ils pour des leaders, alors que si Paul réagit comme ça, ils ne devraient pas, ils n'en ont pas la carrure. Et puis, si vous vous souvenez de ce qu'on a lu dans les premiers chapitres, toute l'Église, l'état de l'Église, c'est pas brillant. Quand Paul écrit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, il fait référence à ce qu'il a écrit plus tôt, au premier chapitre dans lequel il a remis les pendules à l'heure. À ceux qui, dans l'Église, cherchent la sagesse et la force, il a dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. » C'était au chapitre 1, le verset 25. Vous cherchez la sagesse, la force, dans les dents. Il les reprend également. Il leur dit au chapitre 3, « Mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout-petits dans le Seigneur. » Des tout-petits dans le Seigneur. Voilà comment il voit l'Église de Corinthe. Il les reprend. Mais, s'il écrit ça, c'est pas pour leur faire honte, c'est pas pour les casser. C'est par un souci parental. C'est ce qu'il écrit. Il est leur père, qui les a engendrés en Jésus-Christ. Cette notion d'amour parental peut nous étonner. Je sais pas vous, mais moi, on m'a dit, répété, que le salut en Jésus seul nous sauve. J'ai une relation avec Jésus seul, j'ai tout par lui. Et Paul est un père. Et j'irai même plus loin. Au début, au chapitre 1, Paul écrivait aux Corinthiens, « Vous ne pouvez pas vous réclamer de moi. » Vous ne pouvez pas dire « je suis de Paul » comme d'autres se diraient « je suis d'Apollos » ou « je suis de Céphas, de Pierre ». Vous êtes de Jésus-Christ seul. Est-ce qu'il y a contradiction? Par cette affirmation, Paul nous rappelle qu'il a plu à Dieu de donner à Paul un rôle particulier. Même si le salut, ils l'ont en Jésus-Christ, et Jésus-Christ uniquement. Dieu a choisi d'utiliser Paul pour leur amener l'Évangile, pour leur présenter. Et il a un rôle majeur pour la ville de Corinthe, un rôle parental, paternel. Et ce rôle que le Seigneur lui a confié a des conséquences. Déjà, ça lui donne une autorité particulière sur les Corinthiens. Parce que, comme ils ont reçu la totalité du message à travers lui, parce qu'ils ont été sauvés à travers le message qu'il a apporté, ils ont intérêt à l'écouter avec attention. Mais également, le fait que Dieu l'ait placé là, pour engendrer cette Église, ces chrétiens, eh bien, ça lui donne un amour pour eux, un amour comme un père peut l'avoir pour ses enfants. Et l'amour des parents amène parfois à reprendre, à corriger, à orienter. Souvenons-nous de l'amour de nos parents, l'amour qu'ils nous portaient. Alors, nos parents sont imparfaits. Ils n'étaient pas toujours justes. Mais vous saurez certainement reconnaître dans votre vie, comme je reconnais dans la mienne, qu'il y a des fois où il a fallu me reprendre, où c'était nécessaire. Parce que des fois, les enfants ne font pas ce qu'il faut. La Bible nous enseigne que le bien n'est pas inné. On ne naît pas en sachant tout faire et tout faire le bien. Et les parents doivent enseigner leurs enfants. Alors ils doivent leur apprendre déjà quand dormir, quand manger, Ils doivent leur apprendre à faire attention, à éviter les situations à risque, les objets dangereux, les lieux compliqués. Ils doivent aussi leur apprendre la vie en société, les convenances du monde dans lequel ils vivent. Ils doivent les préparer à affronter ce monde, leur montrer quels comportements sont vus comme irrespectueux, lesquels sont pris comme tels. Ils doivent comme ça les préparer au monde et les enseigner et les faire grandir. Et quelquefois, eh bien, il faut reprendre de façon plus rude que d'autres, mais cette correction est motivée par l'amour. L'amour de vouloir le bien, le meilleur, de vouloir bien orienter ce que le Seigneur nous a confié, que ce soit nos propres enfants ou que ce soit dans le cas de Paul, ceux qu'il a engendrés en Jésus-Christ. Par contre, il faut bien comprendre cette relation paternelle qui lie Paul à l'église de Corinthe. C'est pas Paul est un père, il n'est pas un surveillant. Ça, c'est ce qui est écrit au verset 15. Alors, je ne sais pas ce que vous aviez dans vos Bibles, parce que c'est un terme qui est traduit de façon très diverse. Moi, j'ai surveillant dans la mienne. Certaines traductions ont personne qui vous apprenne à vivre, guide, maître, précepteur. Le grec parle de ce mot qu'on a traduit par pédagogue. Mais chez les Grecs, le pédagogue, enfin, le mot qui est utilisé là, ce n'est pas celui qui enseigne l'enfant, c'est l'esclave qui est chargé par le père d'emmener l'enfant chez son enseignant. Et donc, en fait, cette traduction de surveillance est certainement la mieux appropriée, parce que cet esclave n'a pas une grande responsabilité d'enseignant, juste la responsabilité de le conduire chez son enseignant. Un surveillant, donc. Quand bien même vous auriez 10 000 surveillants, écrit Paul. 10 000 surveillants. Ça devait être sympa à Corinthe. On parlait au début de ces gens qui s'enorgueillissent, qui prennent la confiance quand Paul n'est pas là. Et là, on n'est pas à Corinthe et on ne peut pas reconstituer l'église. Mais là, quand même, ça laisse penser que ces gens qui prennent de l'importance se voient bien en maître à dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Mais ce n'est pas ça dont on a besoin dans l'église. Ce n'est pas des surveillants, des personnes qui veulent utiliser leur position pour essayer d'avoir comme ça une puissance, un contrôle sur les autres pour les surveiller. La bonne relation, c'est celle que Paul entretient avec eux, cette relation basée sur l'amour. La relation que Paul propose, sa méthode d'enseignement, c'est l'imitation. On l'a lu au verset 16 qui est très court. « Je vous encourage donc, imitez-moi. » Imiter Paul. Ça, c'est quelque chose qu'il dit plusieurs fois, et il le dit même dans la même lettre, dans la même épître, un peu plus tard, au chapitre 11, où il précise « Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. » Imiter Paul, non pas parce que Paul est quelqu'un de formidable, mais parce que Paul imite le Christ. Le savoir que transmet Paul, cette vie que Dieu veut que nous vivions, cette vie sainte, c'est pas juste un savoir théorique. C'est pas juste une foule de connaissances, c'est pas juste des choses qu'on peut apprendre dans les livres, c'est pas juste des choses qu'on peut nous donner. Tiens, fais ça. Dieu a voulu qu'on le vive ensemble à travers l'exemple. Et vous savez quoi? La meilleure démonstration, c'est la venue de Jésus. Dieu avait donné sa loi à son peuple. Il y a les 10 commandements, et puis il y a toutes les ordonnances dans le Lévitique et toutes les lois. Et le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, a essayé. Et il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à les suivre. Et je crois qu'à travers cet épisode, Dieu a démontré à l'humanité que ce n'est pas donner un mode d'emploi qui va l'aider. Et Dieu nous a envoyé un exemple. Il nous a envoyé Jésus-Christ, qui a réussi à faire ce que Dieu demandait. Et ce que nous avons à faire, c'est l'imiter. L'imiter à travers le témoignage que nous en avons dans la Bible, mais l'imiter également à travers ce que nous voyons dans la vie de ceux qui nous précèdent dans la foi. Parce que c'est ainsi que Dieu a voulu répandre son message en le confiant à des hommes qui le confient à d'autres. Alors c'est une grande responsabilité pour ceux qui portent cet exemple à imiter. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Nous le portons tous. Et c'est une grande responsabilité pour nous tous. Imitez-moi, écrit Paul. À cet effet, je vous ai envoyé Timothée. Alors là, quand j'ai lu ça, je me suis arrêté. Imitez-moi, c'est pour ça que je vous envoie Timothée. Pour imiter Paul, il va falloir recevoir Timothée, l'observer et l'imiter. C'est une transmission. Paul ne peut pas être là, mais on peut l'imiter malgré son absence. Comme on doit imiter le Christ malgré son absence, à travers le témoignage de Paul et des autres apôtres. La vie en Jésus-Christ, la vie du chrétien, ce n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Ces listes, il y en a dans la Bible. Et elles sont utiles, parce que, comme des enfants, des fois on a besoin qu'on nous dise les choses, fais pas ci, fais ça, avant qu'on comprenne pourquoi. Comme nos parents nous disaient, ne touche pas la flamme avant qu'on comprenne qu'elle brûle. Mais il y a toujours une justification. Et en grandissant, on se rend toujours compte que la flamme brûle et que nos parents avaient raison. En grandissant, on comprend toujours que ce que nous demande le Seigneur, c'est quelque chose qui est bon pour nous. Il y a quelque chose que j'aimerais souligner également. Cette relation de filiation, cette relation, ce mouvement d'imitation et de transmission, à travers Paul, à travers Timothée, etc. Ça ne vient pas de nulle part. C'est dans un cadre. Et on aurait tort de l'oublier. C'est dans le cadre de l'Église. Dieu a choisi Paul et lui a parlé. Paul est allé voir l'Église qui a reconnu qu'il avait ce don, ce ministère. Et l'Église l'a envoyé. Vous pourrez relire chapitre 13 de Actes, l'Église a envoyé Paul, il n'est pas parti sur son propre chef. Et de même, Timothée, il ne se pointe pas comme ça. C'est Paul qui a envoyé Timothée, et il n'a pas fait ça dans son coin. Il l'a fait en présence de nombreux témoins. C'est un autre verset que j'aimerais lire. Timothée, on le trouve à plein d'endroits dans la Bible, on le trouve dans les Actes, on le trouve à Éphèse, et puis ici à Corinthe, et puis il y a deux lettres qui lui sont écrites, et dans 2 Timothée, au chapitre 2, le verset 2, il est écrit, chapitre 2, verset 2, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le. » Et là, je note la présence de beaucoup de témoins. Cette transmission, elle se fait dans un cadre. Cette transmission, ce n'est pas un groupe de francs-tireurs qui va à droite, à gauche, faire les choses chacun dans son coin. C'est dans le cadre de l'Église et du mouvement que le Seigneur veut lui donner. Voilà ce qu'on peut dire sur ce texte. Ce texte qui n'est pas forcément, qui ne nous expose pas quelque chose à faire, quelque chose de clair, mais ce texte qui témoigne du ministère de Paul, qui témoigne de la transmission de l'Évangile, la transmission du message de Jésus. Cette transmission, elle ne passe pas uniquement par un enseignement. Cette transmission, elle passe par des hommes qu'il faut imiter, par des gens qui nous ont précédés dans la foi, par des pères, par des grands frères, des grandes sœurs. Et du coup, nous, Église à Clermont-Ferrand, au XXIe siècle, est-ce qu'il y a des principes qu'on peut retirer pour notre vie d'Église, pour notre vie chrétienne ? Je le crois, assurément. Et je crois qu'il plaît toujours à Dieu, aujourd'hui, au XXIe siècle, de passer par des hommes pour transmettre son message. Aujourd'hui, Dieu sauve encore à travers le témoignage de ses enfants, à travers l'accueil qu'il déploie à l'image de celui de Jésus, à travers l'explication qu'ils apportent au texte biblique à ceux qui leur posent des questions. Dieu confie à son Église, c'est-à-dire aux membres qui y sont, qui veulent y prendre part, le soin de confier la bonne nouvelle, son trésor précieux. Et ça, eh bien ça nous donne à tous des responsabilités. Et ça nous rappelle également qu'après la conversion, le travail n'est pas terminé. Vous vous souvenez de notre projet d'Église. Nous voulons faire des disciples qui font des disciples. Nous ne voulons pas faire des chrétiens, nous ne voulons pas faire des conversions, mais des disciples qui font des disciples, qui font des disciples. Nous voulons nous inscrire dans cette chaîne. Et après la conversion, le travail n'est pas terminé. Il faut encore s'occuper du bébé spirituel, de l'enfant spirituel, du jeune spirituel. Il faut encore lui donner ce qu'il faut pour grandir, ce dont il a besoin. Après avoir invité à l'Église pour que les gens viennent, après les avoir accueillis pour qu'ils se sentent bien, après les avoir baptisés en réponse à la décision qu'ils ont prise de suivre Jésus, il faut encore les accompagner pour qu'ils grandissent en lui. Et ça a des conséquences pour chacun d'entre nous dans nos vies individuelles. Ça a une double conséquence. Ça nous invite à rechercher la croissance pour nous-mêmes, de continuer ce mouvement à connaître toujours plus le Seigneur, à toujours faire plus ce qu'il attend de nous. Et ça nous invite aussi à la susciter chez les autres, à nous investir dans leur vie, à être présents pour eux, pour les guider un peu plus loin. Je crois que nous sommes invités à nous sentir responsables les uns pour les autres. Responsables avec un avertissement, nous ne sommes pas des surveillants. Nous ne sommes pas une église de surveillants, une église de gardiens de la moralité chrétienne. Je pense que vous vous en êtes rendu compte, dans notre monde, les chrétiens sont souvent vus comme conservateurs, des gens qui veulent conserver, sauvegarder une moralité ancienne et si possible l'imposer aux autres. Et ça, ça ne plaît pas beaucoup à notre société. Mais ce n'est pas ce que nous enseignons. Parce que ce que nous enseignons, c'est ce que nous croyons avant tout être bon. Sincèrement, nous devrions n'avoir rien à faire si la société évolue ou pas. Ce qui nous préoccupe, c'est que ce qu'elle fasse soit bon pour elle. Et nous avons une conviction forte de ce qui est bon pour elle. C'est ce que le Seigneur a voulu. Nous croyons que le Seigneur veut ce qui est bon pour nous. Et si nous nous transmettons, si nous encourageons à suivre cette voie, c'est parce que nous croyons que c'est bon, c'est par amour. Nous devrions le faire à travers la motivation de l'amour. Les commandements de Jésus, on ne les transmet pas à grands coups de « il faut ». En disant, mais on les transmet en disant « c'est bon ». Ça change la vie, ça libère. Et ce qui nous permet de le dire, c'est que ces bienfaits, on les expérimente dans nos vies. Si nous ne les expérimentons pas dans nos vies, comment est-ce que nous pouvons convaincre les autres que ce sont de bonnes choses? Les commandements de Jésus, on les transmet en les vivant, en étant un modèle sur le chemin, avec l'unique conviction que c'est le meilleur chemin pour moi et pour mon prochain. Que ça apporte un bienfait à celui qui suit ce chemin. Et pour nous asseoir dans cette conviction, nous avons le modèle de nos aînés dans la foi. Le modèle de ceux qui sont en avance sur le chemin, de ceux qui portent le fruit que produit l'Esprit. Je rappelais tout à l'heure que ce que vit Paul, ça se fit dans un cadre. Et je crois qu'aujourd'hui encore, si on veut le vivre, le cadre est bon. Le cadre de l'Église est bon pour ne pas tomber dans le danger que Paul souligne, ce danger d'être une Église de surveillants. C'est une tendance que nous avons en tant qu'hommes et que Paul rappelle ici. Et Jésus, avant lui, nous avait mis en garde contre la pratique de scruter l'œil du voisin à la recherche d'un petit bout de paille. Et nous connaissons certainement des chrétiens qui, à nos yeux, se mêlent trop de la vie des autres. Oui, le danger est là. Et il est bon que ce mouvement, nous le vivions en Église. Avec des guides reconnus par l'Église pour leur sagesse et pour leur témoignage. Et que nous le vivions avec des personnes qui souhaitent progresser et qui s'inscrivent volontairement dans ce projet. Nous ne sommes pas là pour imposer quoi que ce soit. Et j'aimerais vraiment que notre Église trouve le moyen, le temps, les ressources pour mettre en place un tel programme. Aujourd'hui, c'est très à la mode. On parle de redevabilité, de 1 à 1, de groupe de croissance, de mentorat. Il existe plein de choses. Et plusieurs sont déjà venus me voir pour me demander comment ils peuvent s'engager dans cette voie. J'essaye de répondre. Pour l'instant, ce sont des initiatives isolées. Mais je suis sûr que c'est un bon chemin. Et j'espère que bientôt, nous pourrons le vivre de façon plus large. Mais si nous n'avons pas mis de cadre organisationnel pour l'instant. Il y a un cadre que nous ne saurions ignorer, c'est le cadre du verset que j'ai lu tout à l'heure, de 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Je le relis. « L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, d'en instruire d'autres. » Ce verset, il est formidable. Parce que dans ce verset, on retrouve 4 générations de chrétiens. Dans un seul verset, on a 4 générations. Il y a Paul, qui transmet à Timothée. Et Timothée, il a la charge de transmettre à d'autres, qui soient également capables de transmettre. Et on voit bien la chaîne qui se met en place. On voit bien la responsabilité des chrétiens. On voit bien que pour transmettre efficacement, il faut aussi recevoir. Que si on veut accompagner, il est nécessaire soi-même d'être accompagné. Et du coup, il y a une question qui se pose à tous. Une question qui m'a été soufflée par Mike, qui l'a ramenée des États-Unis. Une question que nous pourrions tous nous poser. Qui est mon Paul? Qui est mon Timothée? Qui est la personne qui m'amène plus loin dans la vie chrétienne? La personne vers qui je me tourne, la personne que je regarde et qui m'amène plus loin. Et qui est mon Timothée? Qui est la personne dans la vie de qui je m'investis? Pour qui je suis un grand frère, une grande sœur, pour l'amener plus loin? Et je crois qu'arriver à ce point, c'est là où j'aimerais m'arrêter. Parce que là, il y a de la matière à réfléchir. Gardons en tête que le projet de Dieu ne s'arrête pas à la conversion, ni au baptême. Gardons en tête cette double question. Qui est mon Paul? Qui est mon Timothée? Comment est-ce que moi, je peux continuer à avancer? Sur qui est-ce que je peux m'appuyer? Et qui est-ce que j'aide à avancer? À qui est-ce que je transmets? De qui est-ce que je me sens responsable? Dans la vie de qui je m'investis? Est-ce que je fais ça dans le cadre de l'Église? Est-ce que j'ai moi-même quelqu'un pour me guider? De qui est-ce que je reçois? Vers qui est-ce que je me tourne? De qui est-ce que je peux apprendre? Par qui est-ce que je souhaite être guidé pour être semblable au Christ ?